Lions 100 points out in the West.
Radio X Files avec Christian Page et Camille.
Oh my God.
Radio X.
Bonsoir et bienvenue sur les ondes de Choix 98.1 Radio X. La nuit est officiellement tombée quand on regarde l'extérieur sur Québec. Ça commence différemment les vendredis soirs parce que c'est l'émission Radio X-Files de 19h à 20h. Vous pouvez toujours interagir en tout temps avec nous et je fais une première parenthèse. Merci à l'auditeur qui me mentionne que sur l'autoroute 40 Est à la hauteur de Saint-Augustin, il y a actuellement remorquage d'une voiture, donc une seule voie d'ouverture. Merci de nous écouter, peu importe où vous êtes. Et voici l'extrait qui lancera le sujet principal de l'émission de ce soir.
Sur le plateau de Gizeh, les pyramides principales, leur temple et le sphinx sont dépourvus d'inscriptions. Et il est difficile, voire impossible, de les dater par des moyens objectifs. Leur attribution à tel ou tel souverain est donc fondée sur l'interprétation arbitraire d'un faible nombre d'indices à la valeur discutable. Il existe de ce fait une convention selon laquelle les trois pyramides de Gizeh seraient les tombes des pharaons Khéops, Khéphren et Mykérinos, trois souverains de la 4e dynastie. Elles n'ont pourtant jamais livré de dépouilles royales et aucun texte ne fait mention de ces pharaons comme étant les bâtisseurs de ces édifices. Rappelons que les monuments de pierre peuvent être datés avec une relative précision si des textes qui leur sont contemporains mentionnent leur construction, ce qui n'est le cas ni des pyramides ni du sphinx. En réalité, à l'heure actuelle, personne ne peut dire avec certitude qui a érigé les monuments du plateau de Gizeh, à quelle époque ou de quelle manière. Cependant, certains textes peu connus peuvent nous en apprendre davantage et nous ouvrir la voie d'une autre réalité.
Christian Page, je te souhaite un bon début de soirée.
Ben, toi aussi, Camille.
Ça va bien? T'as passé une belle semaine?
Oui, écoute, c'est une semaine très... En fait, tu me dis, j'ai passé une bonne semaine. J'ai eu toute une série de déboires cette semaine.
Ah oui?
Ça a commencé par le bris du pare-brise de ma Camaro. Après ça, mes ordinateurs. Un peu plus tard cette semaine, j'avais un ordinateur principal. J'ai plusieurs ordinateurs à la maison, mais mon l'ordinateur principal que j'utilise, un portable. Tous mes textes pour mes livres, tout ça, sont là-dessus. Évidemment, je fais ce qu'on appelle un backup.
Ben oui, des backups.
Le backup datait quand même d'à peu près un mois et mois et demi. Puis là, la machine est tombée en panne. Plus moyen d'ouvrir ça.
Aïe, aïe.
Là, les textes... heureusement, mon technicien a réussi à récupérer les textes. Je n'ai rien perdu. Mais tu comprends, même si t'as un backup, tu dis, ouais, mais c'est des versions qui datent quand même d'un mois et un mois et demi.
Qui avaient été révisées, réécrites.
Qui ont été, bon... Puis bon, il y a eu toutes sortes de trucs un peu comme ça qui... tu dis, ben là, tabarnouche... J'espère que ça va me lâcher là, cette semaine, là, ces déboires-là qui se sont multipliés. Et comme j'étais dans une espèce de foulée pour chialer, j'ai dit, tiens, pour achever le tout, un auditeur m'écrit pour me dire... d'ailleurs, je fais un petit aparté. J'ai reçu cette semaine, j'ai pas trop des mauvaises nouvelles, j'ai eu cette semaine un auditeur qui, suite à l'émission de la semaine dernière, qui lui est un spécialiste en génétique,
okay.
Qui m'a écrit, il me disait, j'ai lu aussi l'article que vous avez mentionné à propos de la génétique. On a parlé la semaine dernière, tu te rappelles, de cette histoire qu'on était presque sur le point de reproduire en laboratoire par éprouvette un thylacine parce qu'on avait réussi à isoler. Et le type m'a dit, ouais, j'ai lu ça, mais bon, faut quand même tempérer. L'enthousiasme des journalistes et des auteurs qui ont écrit l'article est un petit peu exagéré. Même si on a on a réussi à décoder un certain nombre d'éléments, dont les messagers ARN. Il y a quand même loin de la coupe aux lèvres avant qu'on puisse cloner un thylacine. Fait que je comprends, tout le monde est très enthousiaste à ça, mais sur le plan technique, on a quand même un petit chemin encore à faire. Cela étant dit, je voulais absolument le remercier de m'avoir informé de cette information. Et l'autre raison, ben cette semaine, quelqu'un m'écrit, il me dit ouais, il y a une nouvelle, il y a un nouveau balado qui est disponible sur YouTube, une jeune française qui s'appelle Julie Couvreur. Okay. On a entendu d'ailleurs un extrait là en début d'émission, et elle fait un peu dans l'archéologie tout ça. T'sais. Fait que il me dit qu'est-ce que vous en pensez. Je suis allé voir ça, et elle est en ligne depuis quelques mois, mais je la connaissais pas. Donc il y a plusieurs vidéos qui sont disponibles. J'ai écouté ça. Et comme j'étais dans mon mood de chiolage, ben écoute, j'ai eu de quoi à chioler là, puis pas à peu près. Écoute, dans okay. le court extrait qu'on a entendu là en début d'émission, là, qui dure, je crois, 1 minute 7 ou 1 minute 10, il y a 7 mensonges là-dedans.
Oh, fait qu'on s'en va se promener dans l'univers des pyramides, puis tu vas aller débunker cette minute-là.
Tu dis 7 mensonges en 1 minute.
Wow.
Alors, inutile de dire en 1 heure le nombre d'erreurs, de mensonges qui sont véhiculés là-dedans. Écoute, c'est d'une aberration là, tout à fait étonnante. Et j'arrive pas à comprendre comment des gens... Écoute, c'est, pour moi, ça reste toujours un peu une énigme. Je comprends que l'histoire est plein d'éléments, plein de monuments qui suscitent une fascination. Hein. On pense aux pyramides, on pense aux lignes de Nazca, le Machu Picchu au Pérou, les pyramides du Mésoamérique, là, les Mayas, tout ça. C'est fascinant. Hein. Et je comprends que ça soulève un intérêt, puis ça fait rêver. Mais toi, là, quand tu as mal aux dents, est-ce que tu vas voir ton boulanger?
Non.
Non, tu vas voir un dentiste. Hein, je veux dire, ça se sent. Quand ta voiture ne va pas bien, est-ce que tu vas voir ton libraire?
Encore moins.
Encore moins. Ça, tu vas voir un mécanicien. Je comprends pas, et je l'avoue, là, pour moi, c'est un grand mystère. Je ne comprends pas que les gens qui affirment s'intéresser à l'histoire ou aimer l'histoire puisse s'alimenter à des sources aussi vaseuses pour nous présenter une version de l'histoire qui est tout à fait fantaisiste. J'arrive pas à comprendre ça. Moi, j'aimerais bien que quelqu'un, s'il y a des gens qui nous écoutent ce soir, peut dire, hey, moi, je le sais pourquoi. J'aimerais bien le savoir pour comment on arrive à faire ça. Je suis complètement dévasté, moi, quand je vois des trucs comme ça. Dévasté parce que, on travestit l'histoire. C'est pas ça qui s'est passé. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Puis ensuite de ça, le message qu'on véhicule, c'est bien beau faire rêver, mais est-ce que j'ai envie de rêver à ce point-là? Est-ce que pour rêver, j'ai envie qu'on me conte des bobards? Je veux dire, moi, je peux m'asseoir ici, puis pendant 1 heure, vous raconter toutes les bobards que vous voulez, si vous voulez rêver. Mais à un moment donné, tu te dis, mais quelle est la place de la vérité là-dedans? Est-ce qu'on en est rendu à tellement vouloir rêver qu'on est prêt à éclipser la vérité? Et là, j'ai pas pu me résister. J'ai dit, ben là, comme aujourd'hui, notre émission touche un peu les énigmes de l'histoire, j'ai dit, ben, faut absolument que je fasse un truc là-dessus. Donc, et il y a plusieurs éléments qu'elle évoque. J'ai pris une seule de ces vidéos. Écoute, on pourrait faire une série complète,
non? Oui.
On ne comptera pas.
Un livre. Je n'ai pris... Tu pourrais faire un livre juste sur une vidéo.
J'ai pris une vidéo qu'elle a présentée. Bon, elle fait dans la pseudo-archéologie. Hein? Bon, les pyramides, tout le reste, avec une réinterprétation de ces grands mystères-là. Donc, c'est ce qu'on appelle de la pseudo-archéologie ou de l'archéologie fantastique. Donc, elle va là-dedans. Et elle aborde plusieurs éléments. L'émission que j'ai choisie, c'est essentiellement une émission sur le plateau de Gizeh et les monuments qui s'y trouvent. Le plateau de Gizeh, pour les auditeurs, c'est le grand plateau qui se trouve près du Caire, où se trouvent les 3 grandes pyramides. Il faut savoir qu'il y a à peu près 80 pyramides en Égypte, et pas que 3. À toutes les fois où on voit des pyramides, c'est toujours les 3 plateaux les 3 pyramides du plateau de Gizeh, alors qu'il y a à peu près 80 pyramides en Égypte. Mais c'est vrai que ce sont celles-là qui sont les plus impressionnantes. Et comme elles sont tout près du Caire, l'accès est assez facile. Vous arrivez, vous allez en voyage, vous êtes au Caire, les pyramides sont juste à côté. Puis c'est vrai qu'il y a une industrie touristique qui s'est développée autour. Je ne sais pas si tu es allé, toi, en Égypte. Tu voyages beaucoup.
C'est ça, j'y vais en octobre l'an prochain au Caire. Oh! Oui, c'est ça.
Fait que tu vas pouvoir le constater de toi-même, de visu.
Tellement, hein. Christian, parce que toi, t'es allé, puis à chaque fois que t'en parles, là, ça monte l'excitation là de partir.
Et quand tu vas arriver sur le plateau de Gizeh, aux côtés des pyramides, tu vas comprendre quand je dis qu'il n'y a pas de mots pour définir le gigantisme de ces monuments-là. Oh. quand t'es au pied de ça, t'as beau dire aux gens, c'est gros, c'est géant, c'est une montagne faite de mains d'homme. Mais quand tu es aux côtés, là, c'est là que tu te rends compte de l'œuvre architecturale que c'est, et colossale que ça a dû demander pour assembler ces millions de blocs de pierre pour réussir à réaliser ce monument, là, très impressionnant, qui est la dernière des grandes merveilles, les sept merveilles de l'Antiquité. C'est la dernière qui est toujours debout. Les autres, les jardins suspendus de Babylone, le colosse de Rhodes, le phare d'Alexandrie, tous ces autres grandes merveilles de l'Antiquité ont disparu. Il ne reste que la grande pyramide de Khoufou, ou Khéops, là, si on prend le nom grec, qui se trouve justement sur ce fameux plateau de Gizeh. Il faut savoir que le plateau de Gizeh, c'est tout un ensemble de monuments funéraires. Ce n'est pas que les pyramides. Hein. Tu vas le voir quand tu vas te... Bon, mis à part les toilettes chimiques qui sont très, très nombreuses, la fameuse toilette bleue.
Ben là, c'est la modernité. Hein?
Ouais, qu'on ne montre jamais dans des images. Toutes les fois que on dirait qu'on a un angle pour montrer le plateau de Gizeh, les pyramides, mais on voit jamais qu'à côté, il y a à peu près 300 toilettes chimiques. Derrière les pyramides, il y a un hôtel tout à fait affreux qui a été construit sans qu'on tienne compte de l'architecture des pyramides juste à côté. Bravo pour l'urbanisme. Bon, on repassera là-dessus. Mais en dehors de ça, c'est vrai que, bon, c'est tout un ensemble de monuments funéraires. Ce sont, historiquement, parlons sur le plan de l'histoire, ce sont trois pyramides qui ont été construites lors de la 4e dynastie. Et on a sur le plateau le père et le fils. Hein. Donc, la première pyramide, c'est celle de Khoufou, celle qu'on dit la grande pyramide. La seconde pyramide est une pyramide qui a été construite par l'un de ses fils, Khéphren. Et la dernière pyramide, la plus petite, Mykérinos, c'est le fils de Khéphren. Donc, le petit-fils de Khéops. Donc, c'est trois générations qui ont construit leur monument sur eux.
Quand on dit petite, as-tu une idée des dimensions?
Ben oui, tu vois, la grande pyramide, la pyramide de Khéops, à l'origine, elle mesurait 147 mètres.
Wow!
Donc, c'est 450 pieds, là, si on y passe en pieds. Là. Donc, c'est 147 mètres. La deuxième, celle de Khéphren, on retient tout le temps la pyramide de Khéops comme la grande pyramide, mais celle de Khéphren n'est pas très loin derrière puisqu'elle mesurait 135 mètres, donc quelques mètres de moins que celle de son père. Celle de son fils, Mykérinos, elle est plus petite. Hein, elle mesure une quarantaine de mètres de haut, 50 mètres peut-être, mais elle est beaucoup plus petite. Là, et ça se voit là à l'œil. Quand tu regardes la grande pyramide de Khéops, la pyramide de Khéphren, c'est difficile de déterminer à l'œil laquelle est la plus grande. Mais la pyramide de Khéphren, là, de Mykérinos, visiblement, là, elle est tout petite à côté. Okay. Donc, ce sont un ensemble de complexes funéraires. Quand je dis la pyramide de Khéphren, c'est celle du fils de Khéops. Il faut savoir qu'il n'est pas le premier dans la succession. Après la mort de Khéops, le fils qui a régné, c'est un fils qui s'appelait Djédéphré. Et sa pyramide n'est pas sur le plateau. Parce que Djédéphré, quelle absurdité. Djédéphré, tu vas comprendre pourquoi que sa pyramide n'est pas là. Djédéphré, lui, il était comme... Quand son père est mort, tu sais, il a pris le contrôle. Tu sais, bon, ben ok, moi, je suis le nouveau pharaon. Et quand il est en Égypte, hein, quand un pharaon monte sur le trône, la première chose qu'il commence à faire, c'est de immédiatement préparer sa mort. Or, c'est tout le temps, hein, les pharaons étaient souvent un peu ce qu'on appellerait des voisins gonflables. Hein.
Oui.
Donc, si Khéops avait une pyramide de 147 mètres, son fils Djédéphré s'est dit, ben moi, il faut que ma pyramide soit plus haute que celle de mon père. Alors, mal lui en prit parce qu'il s'est dit, je peux pas faire construire une pyramide qui va être sur le plateau de Gizeh, qui va dépasser celle de mon père. Parce qu'il faut savoir que la pyramide de Khoufou, ou Khéops, c'est une pyramide qui a littéralement appauvri l'Égypte. Hein, pendant 20 ans, 25 ans, tous les efforts de l'Égypte ont été mis sur la construction qui a coûté énormément.
Tu sais, question me titillait, je me disais, Mané, à force d'avoir un complexe de voisins gonflables, comment ils s'endettaient, tu sais?
Ouais, c'est ça. Donc, le pharaon décide de faire ça. C'était pas des esclaves, hein, ceux qui construisaient les pyramides, c'était des ouvriers, il y avait là-dedans des maîtres maçons, il y avait des architectes, ces gens-là étaient payés, entendons-nous par payés, le pharaon, le leur offrait le gîte et offrait également la nourriture, hein, parce que durant les grandes périodes, il y avait les périodes de crue en Égypte où là, les gens travaillaient au champ. Mais après ça, après la période de crue, ben évidemment, si tu voulais continuer, tu pouvais rester chez vous, mais éventuellement, une fois les impôts payés et tout le reste, tu te serais vite appauvri. Donc, le moyen d'échapper à ça, c'est d'aller travailler au chantier des pyramides. Et à ce moment-là, ben tu étais payé d'une certaine façon parce qu'on t'offrait le gîte et on t'offrait la nourriture.
Okay.
Et la bière aussi. Hein. Les Égyptiens étaient très portés sur la bière. Ah. Donc on offrait la bière. On paye la bière.
C'est correct, ça.
Tu viens mener une roche, là, tu viens traîner une grosse roche, on va te payer la bière.
Pas d'eau potable à la maison, mais je suis payé en bière.
C'est ça. Mais tout ça pour dire que le fils Djédéphrin, lui, s'est dit, tiens, moi, je vais avoir une pyramide plus haute que celle de mon père. Mais comment se faire? Tu peux pas reproduire un chantier comme celui de la pyramide de Khéops. Donc, il y avait pas très loin de là, il y avait comme une montagne, une colline. Et Djédéphrin s'est dit, si je construis ma pyramide sur la colline,
elle va avoir de la plus haute.
Ultimement, elle va être plus haute.
Hein, oh, mon Dieu.
Donc, si t'arrives de loin, tu vois la pyramide de Khéops, et derrière, tu vois cette colline avec l'autre pyramide dessus, pyramide de Djédéphrin, qui, ultimement, est plus haute, hein, à cause, justement, qu'elle est construite sur le sommet d'une colline. Malheureusement, pour Djédéphrin, là où il a fait construire sa pyramide, ça s'appelle Abu Rawash, qui est un quartier littéralement du Caire. Et éventuellement, les gens, quand le Caire a été construit, là, au Moyen-Âge, tout ça, les gens ont été chercher toutes les roches de la pyramide de Djédéphrin pour construire leur propre maison.
Oh mon Dieu!
Fait que finalement, aujourd'hui, si tu visites Abu Rawash, il reste qu'un paquet de roches à terre. Il n'y a plus de pyramide, il n'y a plus rien. Donc, Djédéphrin s'est fait piller sa pyramide. Et finalement, son rêve d'avoir une pyramide plus haute que celle de son père, ben, mal lui en prit, puisque cette pyramide-là a été détruite depuis. Alors que son frère, qui lui a succédé, Khéphren, lui a fait construire sa pyramide sur le plateau de Gizeh, juste à côté de celle de Khéops. Il a accepté qu'elle soit un peu moins haute, donc à 135, 136 mètres. Donc une dizaine de mètres de moins que celle de son père. Mais néanmoins, cette pyramide, elle est toujours là aujourd'hui, puis on peut la contempler. Donc, bref, tout ça pour dire que c'est un endroit qui est magnifique, là, je dirais. Et c'est un complexe funéraire dans la mesure où on a les trois pyramides qui sont les tombeaux. Et on va revenir là-dessus parce que vraiment, là, cette madame Julie Couvreur a besoin d'aller ouvrir des livres d'histoire parce que le nombre d'absurdités qui est dite dans ces vidéos, c'est aberrant.
D'ailleurs, est-ce que tu as une recommandation? On a une question d'une auditrice. J'aimerais savoir le meilleur endroit pour avoir un cours d'histoire de l'Égypte. Une lecture peut-être à suggérer aux gens? Ou...
Ben, y a le meilleur égyptologue français qui a écrit de nombreux ouvrages sur l'Égypte. On l'a déjà reçu à l'émission de Radio X-Files. Il s'appelle Jean-Pierre Adam. Donc ça, c'est une référence. Jean-Pierre Adam, c'est un très, très grand archéologue français, égyptologue. Donc si vous allez en librairie, vous trouvez des livres sur l'Égypte écrits par Jean-Pierre Adam, vous ne vous trompez pas, c'est vraiment un spécialiste de la question de l'égyptologie.
Parfait.
Donc le complexe funéraire, on a les pyramides, et c'est très important de retenir ça, parce que toute la complexité de la situation joue sur l'ensemble lui-même des monuments. Donc, on a les trois pyramides, Khéops, Khéphren et Mykérinos. Et on a ensuite, devant les pyramides, il y a un important complexe funéraire. Et parmi ce complexe funéraire, on a le Grand Sphinx. Qui représente un lion avec une tête d'homme. Je pense que tout le monde a en tête. On a vu l'image du sphinx. Et non, ce n'est pas Obélix qui a brisé le nez du sphinx. Mais donc, c'est le complexe. Et là où on a plusieurs éléments, donc, si je fais reprendre la première minute qui est dite de ce reportage de Julie Couvreur, elle nous dit, bon, d'abord, comme je l'ai mentionné, c'est absolument aucun sens critique, valeur historique zéro. C'est un plagiat tout le long, hein, parce que tout ce qu'elle fait, elle reprend des textes qui ont été écrits par d'autres. Ah, elle a une belle voix, hein, on l'écoute, puis c'est très agréable. Mais au-delà de la belle voix, tout ce qu'elle dit, c'est reprendre ce qui a été proposé par d'autres auteurs un peu fantaisistes qui ont parlé des pyramides, puis on le sait, là, les pyramides ont été passées à toutes les sauces, les extraterrestres, les Atlantes et tout ce que tu voudras. Donc, elle reprend tout ça et elle se l'approprie. Hein, d'une certaine façon, elle livre ça et elle ne donne pas ses sources. Mais si on connaît bien l'histoire, quand elle parle, il y aurait sous le sphinx une chambre avec le savoir universel, ben visiblement, ça, c'est un plagiat de Edgar Cayce, une espèce de voyant dans la première moitié du 20e siècle, qui est né à Hopkinsville, au Kentucky, et qui disait, lorsqu'il était en état de transe, il disait avoir des visions, et il disait que sous le sphinx, il y avait une chambre avec le savoir universel qui était là, puis c'était les Atlantes qui avaient construit ça. Donc, quand Julie Couvreur reprend ce discours-là, ben visiblement, c'est une empreinte à Edgar Cayce qu'elle prend, puis elle se l'approprie. Et si on connaît bien le sujet, je peux te dire qu'elle a plein d'éléments où elle raconte des trucs, puis je peux te dire exactement où elle l'a pris.
Okay.
Puis c'est pratiquement une récitation mot à mot. Hein. Elle prend un paragraphe d'un texte, puis bang, elle nous le livre, et elle ne donne pas sa source, comme si c'est elle qui était arrivée à ses conclusions.
Ah, tant qu'à plagier, on va le faire pour de vrai.
Ouais, hein, c'est ça. Donc, un plagiat qui est absolument sans critique. La théorie qu'elle défend, ben on l'a bien compris, là, et je vais revenir là-dessus. Puis d'ailleurs, même dans la première minute qu'on a entendue, je pense que les auditeurs l'ont compris un peu, l'idée, c'est de dire, non, les Égyptiens n'ont pas construit des pyramides, c'est une super civilisation, c'est les extraterrestres, c'est quelqu'un d'autre. Hein. C'est donc cette théorie-là de non, si t'es un basané d'Afrique du Nord, t'as pas pu bâtir des pyramides. Il faut que t'aies eu le savoir ou bien d'une civilisation blanche occidentale comme les Atlantes ou encore les extraterrestres. Mais les basanés d'Afrique, ça construit pas des pyramides. Donc c'est excessivement raciste, on en a déjà parlé. Je déteste cette hypothèse-là parce que justement c'est choquant d'entendre un discours comme celui-là. Et qui plus est, ce discours-là, hein, si on regarde dans les racines du discours, il est né à la fin, bon, il y a d'autres racines hautes, mais parmi les principales racines, on a au 19e siècle l'avènement d'une nouvelle religion, en fait un mouvement ésotérique et mystique qui s'appelait la théosophie, qui a été lancé par une femme qui s'appelait Madame Blavatsky, Elena Blavatsky, une espèce d'aventurière russe. Elle dit avoir voyagé du côté du Tibet, tout ça. Et durant ses voyages, elle dit avoir été initiée par des êtres cosmiques, des guides spirituels qui lui ont parlé, qui lui ont révélé. Et tu vas comprendre que ça va loin, là. Ces guides lui auraient révélé que le monde avait évolué par des bons successifs qui avaient été introduits par des super civilisations. Donc, dans le passé, il y avait eu les Atlantes, il y avait eu les Hyperboréens, et là, elle annonçait, elle disait, bientôt, il y aura l'avènement d'une nouvelle race, une super race qui va prendre le contrôle du monde et permettre l'évolution de l'homme, et cette nouvelle race, ce sera les Aryens.
Je savais qu'on s'en allait là.
Donc, tu comprends que au début du 20e siècle, lorsque la théosophie de Madame Blavatsky, c'est le nom de ce mouvement ésotérique et mystique, s'est répandue, il a connu un certain succès aux États-Unis, en Europe, mais en Allemagne, ça a particulièrement bien pris. Et pourquoi ça a bien pris? Ben parce que les Allemands s'étaient fait un peu botter le derrière avec la Première Guerre mondiale. Il y avait eu le traité de Versailles qui obligeait l'Allemagne à payer des dommages au reste de l'Europe pour les dommages causés. Et à ce moment-là, il y a toute une génération de jeunes Allemands qui trouvaient que le traité de Versailles appauvrissait le pays, plaçait les gens dans des situations très difficiles. Et l'Allemagne avait quand même été une grande nation. Il faut se rappeler qu'au sortir du Moyen-Âge, début de la Renaissance, on parlait de l'Empire germanique. Hein? Des gens comme Charlemagne avaient dirigé littéralement l'Europe, l'Empire, et ils le dirigeaient depuis l'Allemagne. Hein? C'était le siège. L'Allemagne a été à un moment donné la nouvelle Rome. Hein? C'était le siège du monde occidental. Et là, voilà que cette grande nation qui avait été la Germanie se retrouve à payer des dommages et intérêts à l'Europe au lendemain de la guerre. Les Allemands sont considérés comme des mécréants qui ont causé la Première Guerre mondiale. Donc, il y a tout un sentiment d'une jeune Allemagne qui se dit un peu lésée là-dedans. Et lorsque Madame Blavatsky arrive avec cette théorie que bientôt il y aura une race qui va diriger le monde, Ben, il y a des jeunes un peu plus zélés que d'autres qui vont se dire, ben ici, cette race-là était une race d'hommes blancs comme l'avaient été dans le passé les Atlantes ou les Hyperboréens. Ici, cette race blanche, européenne ou occidentale, était la nouvelle Germanie. Et à travers ça, ben, t'as bien compris, on va paver la voie au néo-socialisme qui va devenir le parti nazi avec Hitler et tout le reste, et qui va donner naissance à ces politiques racistes et antisémites qu'on va retrouver dans l'Allemagne nazie.
C'était sectaire. Donc, pareil, hein, pour que l'Allemagne ait été en mesure d'élire quelqu'un qui croyait à ça, en fait, fondamentalement. Oh, ça veut dire qu'il... Hitler croyait à cette théorie-là, en fait.
Oui, absolument. Et donc, on voit, là, on est dans ce monde-là. Et attention, là, je dis pas que les gens qui font la promotion de cette théorie-là sont conscients de ça.
Okay.
Hein, y a des gens qui m'ont dit, oui, mais par exemple, parmi les auteurs qui ont écrit beaucoup sur ce sujet-là et qui croient effectivement à cette super civilisation qui aurait initié le monde à la connaissance, il y a un type qui s'appelle le Graham Hancock. Or, Graham Hancock, les gens m'ont dit, ouais, mais Graham Hancock, son épouse à Graham Hancock, et elle-même, elle vient de la Malaisie, etc. Donc, on peut pas dire que Graham Hancock est raciste. J'ai l'impression, c'est pas que l'individu, lui, est raciste, c'est l'hypothèse qui est raciste.
Ouais.
Cette hypothèse de croire que le monde ne peut pas évoluer sans l'apport d'un monde, d'une pensée occidentale, c'est excessivement raciste. Et donc, elle reprend cette Julie Couvreur, reprend à son actif cette théorie-là. On voit qu'elle s'est alimentée à des auteurs comme justement Graham Hancock, Eric von Daniken, le père de la théorie des anciens astronautes, etc. Donc, elle reprend tout ça, elle fait un gros Tinkbot, et elle nous sert ça avec un nombre d'erreurs épouvantables. Uniquement quand elle parle des pyramides, la première minute qu'on a entendue, bon, je t'ai dit qu'il y a 7 erreurs, je rentrerai pas dans le détail des 7 erreurs, mais quand elle dit, par exemple, il n'existe aucun écrit qui prouve que les pharaons ont construit les pyramides, à deux minutes, là, c'est un peu fort, hein? Il y a comme un contexte, il faut quand même, c'est un peu comme le contexte, c'est ce que les historiens ou les archéologues vont appeler le contexte archéologique. Le contexte archéologique, logique, tu sais, les pyramides sont pas apparues comme ça, là, hein, tu sais. Quand tu regardes dans l'histoire de l'Égypte, on n'est pas arrivé du jour au lendemain avec la construction des pyramides, tu comprends? On est arrivé d'abord, on sait que à la troisième dynastie, il y avait un pharaon qui s'appelait Djéser qui a construit la pyramide à degrés. Parce que avant, les Égyptiens, lorsqu'ils mouraient, les rois, les princes égyptiens, lorsqu'ils mouraient, on les enterrait dans ce qu'on appelait des mastabas, qui est traduit en français, veut dire littéralement un banc. Et le banc, ben, c'est simplement un ensemble de pierres qui forment plus ou moins un carré, un cube ou un rectangle, si t'aimes mieux, là. Et c'est la sépulture. C'est simplement comme un banc de roche. Et c'est la sépulture. C'est un mastaba. Et ensuite, quand arrive Djoser qui va être éventuellement le grand-père de Khufu, lorsque Djoser arrive, lui, il se fait construire, évidemment, pour que la fin de son règne, il s'est fait construire un mastaba. Mais, encore une fois, le principe du voisin gonflable, il s'est dit, ouais, mais pourquoi moi je règne un mastaba? Tu sais, je suis plus grand, moi je suis un meilleur pharaon. Donc, et là, il demande à son architecte, Imhotep, il dit, ben moi je veux quelque chose de mieux. Et Imhotep va construire un étage supplémentaire, un peu comme les enfants. Avec, puis tu l'as sûrement fait toi-même petite, hein, on prend un jeu de cartes, puis on monte, on fait des cabanes de cartes, là, puis après ça, on met un deuxième étage, puis après ça, un troisième étage, tu sais, jusqu'à temps que notre château de cartes s'écroule, tu comprends?
Ouais.
C'est un principe simple, c'est le propre des êtres humains de construire en étage comme ça. Donc, Joseph dit, ben moi, j'ai un mastaba qui est construit pour ma sépulture, mais il demande à son architecte, tu peux-tu m'en construire un par-dessus, un deuxième étage, ça c'est un peu plus haut. Puis finalement, on en a fait un deuxième, c'est tabarnouche, j'aime ça. Construisons donc un troisième étage. Et finalement, on s'est ramassé avec 6 étages. Hein. On avait une pyramide à degrés. C'est la première pyramide de l'histoire de l'Égypte, une pyramide à degrés. Donc, en fait, c'est l'emboîtement de plusieurs mastabas, les uns par-dessus les autres. Arrive son fils, qui est Snéfrou, qui est le père de Khéops, et lui, Snéfrou, se fait construire, lui, 3 pyramides. Il en fait construire une qui est à degrés. Il n'y a pas de l'air à aimer ça. Il se dit, on pourrait-tu avoir des formes un peu plus lisses? Et là, il va tenter une deuxième pyramide. Et cette deuxième pyramide, elle va... Parce qu'on apprend, tu comprends, c'est l'architecture qui augmente. On a appris de nos erreurs. Et donc, il se dit, moi, la pyramide à degrés comme celle de mon père, j'aime moins ça. J'aimerais ça qu'elle ait une face lisse plutôt que des degrés. Il va demander à la construction, on va passer à la première construction d'une pyramide à face lisse. Mais malheureusement, on maîtrise pas encore tout à fait l'art de la construction, et à un moment donné, quand on est arrivé aux deux tiers de la pyramide, on s'est aperçu que le centre commençait à s'enfoncer. Oh. Le sol ne réussissait pas à supporter le poids de la roche. Alors, on a décidé d'exagérer l'angle du sommet, ce qui donne à la pyramide une drôle de structure qu'on appelle la pyramide rhomboïdale. Si tu tapes ça sur ton moteur de recherche, pyramide rhomboïdale, tu vois qu'elle a une drôle de gueule, tu sais. Mais bon, bref, là, Snifrou avait compris que ça, c'était inhérent. Et là, il va demander à ses architectes, évidemment, t'es un pharaon, t'accepteras pas de te faire enterrer dans une pyramide imparfaite. Fait qu'il demande à ses architectes de construire une autre pyramide. Maintenant qu'on a appris, hein, on s'est dit l'angle de la pyramide dite pyramide effondrée ou pyramide rhomboïdale. Il dit maintenant qu'on sait qu'on peut pas avoir des angles aussi prononcés, ben on va en construire une avec des angles plus étendus et on va arriver à la première pyramide, disons parfaite, qui est la pyramide rouge. Donc la troisième pyramide construite par Snefru, c'est la pyramide rouge. Et arrive son fils avec tout le bagage de connaissances qu'il a acquis depuis que son grand-père a fait construire la pyramide à degrés, son père la pyramide rhomboïdale et la pyramide rouge. Khéops va arriver et faire construire la première grande pyramide à face lisse, qui est la pyramide de Khéops qu'on connaît aujourd'hui. Donc, on voit l'évolution. Donc, tu peux pas prétendre qu'on ne sait pas qui a construit ça, puis on ne sait pas quand ça a été construit. Ben, moi, je peux te le dire quand ça a été construit. Ça a été construit entre la pyramide à degrés de Djoser et entre la pyramide de Khéphren. Tu comprends? Ça n'a pas été, tu sais, t'as pas passé d'un Model T à une Lamborghini. Tu sais, t'as passé d'un Model T à une voiture à crinque, puis après ça, t'as passé une vieille voiture, puis on augmente. Tu sais, il y a comme un contexte, là. C'est fourré de nous dire un truc comme ça. C'est, mais voyons donc, qu'est-ce que tu me racontes là? C'est comme si les Égyptiens avaient eu des gens en Égypte qui avaient construit des pyramides parfaites, puis ces gens-là sont partis. Puis tout d'un coup, 2, 3, 4 000 ans après...
Quelqu'un
qui a trébuché dessus. Puis tiens, on va en faire une, moi aussi, mais t'as pas tout à fait bonne. Puis, tu dis, mais voyons... On frise, excuse-moi de te dire ça, mais ça me choque tellement, parce que là, on frise la maladie mentale, là. Tu dis, écoute, tu l'as d'en face, là. Tu sais, on est-tu d'accord que t'as passé de la bicyclette à la charrette, puis de la charrette au Model T? C'est facile de voir ça. Pas besoin d'être un génie, pas besoin d'avoir été à l'université. Tu peux pas prétendre autrement. Il est là, le contexte, là. Tu l'as d'en face. Ça prend qu'un imbécile pour nous raconter un truc comme ça. Bon, là, je me choque un peu, mais bon.
Ben, parce que c'est tellement difficile pour monsieur, madame, tout le monde, mettons, de comprendre l'évolution, tu sais, surtout des choses que, on dirait que la pensée magique, que tout était là avant qu'on arrive, tu sais, oui, mais il y a eu des gens avant nous, puis...
Oui, puis c'est ça, puis on voit...
L'intelligence était là aussi à l'époque, là.
Oui, voilà. Puis, tu sais, on voit l'évolution. Tu sais, c'est comme dans n'importe quoi, là. Tu sais, si tu regardes l'évolution, tu sais, la voie ferrée. Bon, on a eu des voies ferrées, puis on a eu des engins à vapeur, puis les engins à vapeur, les engins au charbon. Puis là, aujourd'hui, on a les locomotives qu'on voit, là. On a les trains sur rail, puis etc., à grande vitesse. On voit l'évolution, là. C'est pas arrivé comme ça, d'un coup, on est passé de la machine à vapeur au train, au TGV, pour en revenir au train au charbon. Bon, là, tu sais,
non.
C'est quoi ton idée? Faut vraiment être une niaiseuse. Excuse-moi, il faut être niaiseux pour faire un truc comme ça. Ensuite, elle dit, il n'y a pas d'écrit qui dit que les pyramides ont été construites par les Égyptiens. Ben, voyons donc, qu'est-ce que c'est ça, là? Uniquement dans la pyramide de Khéops, par exemple, dans une chambre, puis tu vas probablement avoir la chance de visiter ça, c'est magnifique, écoute. Quand tu arrives dans la grande pyramide de Khéops, il y a ce qu'on appelle la grande galerie qui t'amène à la chambre funéraire.
Oh, wow.
Et une fois que tu es dans la chambre funéraire, ce qui nous frappe, hein, c'est l'aspect très dépouillé de l'endroit. Appelons ça comme ça. Il n'y a aucune sculpture, il n'y a aucun graffiti, il n'y a aucune marque sur les murs, tout à fait sobre. Elle présente ça comme étant, ça prouve que c'est pas le pharaon qui a fait construire ça. Sinon, ça serait plein de hiéroglyphes. Il faut reviser ces livres d'histoire. À cette époque-là, le tombeau, c'est pas la même, tu sais, on n'est pas dans le même temps, parce que elle fait des comparaisons le boiteuses en disant ben oui, mais quand on regarde par exemple dans la vallée des rois, là où on a trouvé le tombeau de Toutankhamon et d'autres hein, d'autres pharaons qui ont été enterrés dans la vallée des rois, Ramsès, tout ça, elle dit, quand on voit les tombeaux, ben ils sont remplis de tu sais de hiéroglyphes, on a tous vu ces images là des tombeaux avec les murs
si
complets.
Je me trompe pas, c'est comme leur récit là de famille,
leur récit de leur vie, etc. Sauf que entre la construction de la pyramide de Khéops et le tombeau de Toutankhamon, par exemple, ben on a grosso modo, là, je te dirais, plus de 1000 ans qui se sont écoulés.
À peine! Okay.
Un petit 1000 ans, là. T'sais, on a l'impression que ça se fait comme un pet. Non, il y a 1000 ans là, qui séparent ça. Là.
Okay.
L'architecture a changé, la pensée a changé. À l'époque, il y a rien dans le tombeau, dans la pyramide de Khéops, mais on peut supposer, malheureusement, ils ont été détruits, que tout l'ensemble funéraire en face, lui, contient des sculptures, il contient des hiéroglyphes, il contient des statues. Autrement dit, le récit de la vie du pharaon n'était pas dans la pyramide, mais il était dans le temple funéraire, puis tu vas le voir, tu vas pouvoir le visiter toi-même, le temple funéraire qui est devant le tombeau. Donc, plus tardivement, le récit de la vie du pharaon sera directement placé dans le tombeau, mais à l'époque de Khéops, on fait pas ça. La pyramide est dépouillée, elle sert essentiellement à recevoir le corps du pharaon et tout le récit de sa vie est autour. D'ailleurs, quand elle dit il y a pas d'inscription dans les pyramides qui dit qui a construit les pyramides, ben si on prend uniquement la pyramide de Khéops, juste au-dessus de la chambre du pharaon, il y a ce qu'on a appelé une pièce ou une chambre de décharge pour éviter le poids sur la chambre du pharaon. On a placé d'autres blocs de pierre, puis on a créé des vides au-dessus. Mais quand tu vas dans l'un de ces vides-là, tu vois sur le mur ce qu'on appelle un cartouche avec le nom du pharaon Khéops, hein. C'est un peu la signature. Donc, c'est les ouvriers de l'époque ont fait un cartouche puis ont mis le nom de Khéops. Donc, ce cartouche, il existe. Et c'est important de mentionner, hein, ce délire-là dans lequel nous entraîne Madame Couvreur, et elle est pas la seule. Crois-le ou non. Il y a toutes ces théories-là un peu fantaisistes, les extraterrestres, les Atlantes, tout le reste. Crois-le ou non, là. En 2013, il y a des imbéciles, hein, il n'y a pas d'autre mot, des imbéciles allemands qui sont allés dans la pyramide, eux aussi, là, des partisans de les Atlantes et tout le reste, là, les super civilisations, les extraterrestres. Ces gens-là voulaient tellement démontrer que la pyramide de Khéops n'avait pas été construite par Khéops qu'ils ont brisé le cartouche.
Je suis tellement pas surprise.
Ils ont brisé un morceau du cartouche, qui est le seul cartouche dans la pyramide qui dit que c'était fait par Khéops. Ils l'ont brisé, ils ont volé un morceau, et leur idée était d'amener le morceau en Allemagne pour le faire analyser dans un laboratoire, puis le laboratoire dit que la peinture utilisée était plus récente, donc que c'était une fraude et que la pyramide datait au moins de 15 à 20 000 ans. Ben, mal les en pris parce que, d'une part, aucun laboratoire n'a accepté de faire ça. Ces zigotos-là ont été arrêtés. Ils ont été condamnés à 5 ans de prison. Et heureusement, le morceau du cartouche a été retourné en Égypte et il a retrouvé sa place à l'intérieur de la pyramide de Khéops. Ce que Madame Couvreur ne nous dit pas non plus. En 2013, un archéologue français du nom de Pierre Tallet a trouvé un document. Parce que c'est facile de inventer des choses quand on n'a pas d'informations, tu comprends?
Ouais.
Si tu recules avant l'écriture, il n'y en avait pas d'écriture. Fait que comme il n'y a rien d'écrit, tu peux inventer n'importe quelle histoire. Les textes, les premiers textes là qui ont marqué l'histoire de l'Égypte antique de la 3e ou la 4e dynastie, ils n'existent plus, ces documents-là. Ils ont été détruits, les temples ont été détruits. Il n'y a plus grand-chose qui nous reste. Donc, on est dans le vide. Puis là, le vide, les gens utilisent ça pour inventer n'importe quoi. Mais en 2013, il y a un archéologue français, Pierre Tallet, qui, en faisant des fouilles en Égypte, a trouvé assez loin du plateau de Gizeh, dans la région d'Assouan, il a découvert un manuscrit, hein, un papyrus, qui était dans une espèce de caverne dans le sable, tout ça. Et on appelle ce document-là le journal de Mérère. Mérère était un appelons ça comme ça, un comptable ou un administrateur de Khéops.
OK.
Et dans son journal, donc Mérin, hein, il parle de Khéops, tout ça, donc il parle du règne de Khéops, et il raconte, hein, dans le journal de Mérin, là, il raconte comment il allait voir les gens, les tailleurs de pierre, puis là, il disait, il tenait, autrement dit, il tenait la comptabilité. Hein, il disait, bon, aujourd'hui, je suis allé acheter 4 blocs de pierre. Les 4 blocs de pierre ont été mis sur le bateau, ils ont été amenés à Gizeh. Le pharaon est bien content. Le pharaon m'a commandé 8 autres blocs de pierre. Tu vois un peu le genre, là, c'est le journal de Mérère, il raconte au jour le jour la construction de la pyramide sous les auspices de Khéphren. De Khéops, pardon. Alors comment Julie Couvreur, dans une minute 7 secondes de son maudite émission au début, peut-elle nous dire, il n'y a pas d'écrit qui dit que les pyramides ont été construites par les pharaons? Voyons, sur quelle planète tu vis? Prends 5 minutes, puis ouvre quelques livres d'histoire, ça n'a pas de bon sens. Tu dis, mais voyons, c'est du grand n'importe quoi. Et là, évidemment, elle part dans ses dérives des Atlantes et des extraterrestres et tout le reste.
Des raccourcis rapides pour... c'est plus facile ça que de faire des recherches plus poussées.
C'est choquant. Moi, j'essaie de me dire, écoute, si j'étais Égyptien, là, puis j'ai une pensée à toute la communauté des Égyptiens qui vivent au Québec, là, ça, entendre des trucs comme ça, mais c'est renversant. Tu dis, mais voyons donc, qu'est-ce que tu me racontes là? Tu sais, c'est comme si demain matin, je sais pas moi, des gens d'une autre nationalité, eux autres, ils disent non, ça les intéresse plus de dire que l'Amérique a été découverte, par exemple, par Christophe Colomb. Fait que là, ils vont commencer à nous dire, ben finalement, c'était pas Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique, puis c'est pas lui qui a construit ça. Ça peut être des gens qui venaient de la Polynésie. Qu'est-ce que c'est ça? Tu sais, on a des faits archéologiques qui montrent ces éléments-là. Tu sais, tu pourrais pas dire que Lance aux Meadows à Terre-Neuve, c'est pas des Vikings qui étaient là, tu sais. Si t'as envie de croire que c'est des Chinois, ben libre à toi, mais les faits archéologiques montrent pas ça. C'est du grand n'importe quoi. T'sais. Et à un moment donné, ça, là, on passe... Je ferai pas le procès de toutes les pyramides, là, mais à un moment donné, écoute, à part sur une chire à propos du Sphinx...
Ah oui, oh les là, mystères du Sphinx.
Les mystères du Sphinx. Écoute, le Sphinx, là, pour rappeler aux gens qui nous écoutent, qui n'ont pas eu la chance d'aller en Égypte ou de voir le Sphinx, hein, c'est une immense structure qui fait là, 73 mètres de long, 14 mètres de large, 22 mètres de haut, c'est gigantesque. Le Sphinx n'est pas une construction extérieure. Hein. Le Sphinx n'a pas été construit, le Sphinx a été taillé. Hein, c'est bien important de retenir ça. Okay. Le Sphinx, il est dans une fosse. On a creusé la terre pour faire le Sphinx. Tu comprends-tu? On n'a pas assemblé des blocs pour faire le Sphinx. Là où se trouvent les pyramides, le complexe funéraire, d'ailleurs, on voit, quand tu vas y aller, tu vas voir, on voit les trous où ils ont coupé les blocs, hein, donc, c'est pas des extraterrestres. Tu vois vraiment les trous où ils ont coupé les blocs pour les mettre sur la pyramide, hein. Donc, ils allaient chercher c'est vrai qu'il y a des blocs qu'ils ont importés d'ailleurs, notamment d'Assouan, de la carrière d'Assouan, mais la plupart des, les blocs qu'on a importés d'Assouan, c'était les gros blocs d'assises à la base de la pyramide. Les autres blocs, étaient localement. Donc, on taillait à même le plateau de Gizeh, on taillait la roche là, puis les roches qu'on taillait, ben, on allait les placer sur la pyramide. Et en faisant ça, ben évidemment, on a creusé, on a créé littéralement une carrière. Et dans le trou de la carrière, ben il y avait le Sphinx. On a creusé de manière à laisser ce corps-là et à le tailler pour qu'il fasse le corps d'un lion. La tête est une pierre plus haute. On peut imaginer qu'à l'origine, dans ce fameux désert, il devait y avoir un piton de roche de granit et en dessous la terre meuble et la terre plus fragile par couche qui forme le corps du Sphinx. Et on a taillé à partir de là. Et la pierre qu'on enlevait pour tailler le Sphinx, ben évidemment, ces pierres-là, on les taillait, on en faisait des cubes, on allait les porter sur la pyramide.
Okay.
Donc, c'est un peu comme ça qu'on a construit ça. D'ailleurs, quand tu es là, tu vois ça, puis il n'y a pas de mystère, tu comprends bien comment ça a été fait. C'est vrai que là où il y a un mystère, on ne sait pas trop qui a construit le Sphinx, parce qu'on est dans la même période, là. On est sur le plateau de Gizeh. C'est sûr que c'est ou Khéops, ou Khéphren, ou peut-être Djédefré, hein, le fils qui a fait construire sa pyramide sans montagne, là, qui s'est fait voler sa pyramide, finalement. Là. Mais donc, c'est un d'eux autres. Le consensus archéologique, c'est que le Sphinx aurait probablement été construit par le pharaon Khéphren, Et le visage du pharaon qui est un peu abîmé, là, il n'y a plus de nez, tout ça, la bouche a été refaite parce que le monument lui-même a été très, très abîmé au cours des siècles. Mais on croit que ça représenterait le pharaon Khéphren, mais il faut l'admettre, on n'a pas une certitude. Puis d'autant plus qu'il est curieusement placé. Il n'est pas tout à fait devant la pyramide de Khéphren et pas tout à fait devant la pyramide de Khéops. Hein. Il est comme un peu décalé des deux. Donc, s'il avait été directement devant les pyramides de Khéphren ou celle de Khéops, on aurait pu dire, ben voilà, c'est le pharaon qui l'a fait bâtir là. Tandis que là, il est placé entre les deux. Est-ce que Khéphren le fait construire là pour rendre hommage à son père, ou est-ce que Djédéphri le fait construire là pour rendre hommage à son père? Mais on sait que c'est à cette période-là qu'il était construit là. Quelque part, dans la 4e dynastie, on a construit le sphinx. Et là, elle part sur un truc, mais d'une absurdité aberrante. Il faut savoir qu'en 90, il y a un géologue de l'Université de Boston, un certain Robert Schott, qui s'est rendu en Égypte. Et lui, là, il a regardé ça, puis il s'est dit, « Ouais, ben moi, là, à mon avis, là, ça n'a pas été la pierre du sphinx a pas été limée par le vent, hein, c'est pas une érosion par le vent, c'est une érosion qui a été faite par de l'eau, comme s'il y avait eu du ruissellement d'eau qui a endommagé le sphinx. Et là il dit, comme il ne tombe qu'à peu près 2 cm d'eau sur le plateau de Gizeh par année, c'est pas beaucoup.
Non.
Il dit, il faut reculer dans l'histoire beaucoup plus loin pour qu'il y ait eu suffisamment d'eau pour que le ruissellement entraîne l'érosion du monument. Donc, en faisant reculer comme ça, il recule jusqu'à 10 000 ans, ça tombe bien. C'est l'époque qu'utilise Graham Hancock pour parler de la super civilisation de l'Antiquité. Mais il faut savoir qu'en histoire, comme dans n'importe quel domaine, il n'y a jamais consensus. L'idée, c'est pas... parce que toute information scientifique, elle a une date de péremption, si je peux dire. Hein. Si je te dis aujourd'hui, on ne peut pas aller plus vite que la lumière, c'est vrai aujourd'hui. Mais ça se peut que demain ou dans 1000 ans, des physiciens découvrent le moyen d'aller plus vite que la lumière.
C'est donc, comme la bonne nouvelle d'une société qui évolue.
Ben, c'est ça. Donc, on peut dire que c'est ça. Donc, les connaissances que l'on a, ce sont les connaissances, il y a un consensus qui dit on ne peut pas aller plus vite que la lumière. Et ça va rester vrai jusqu'à temps qu'on puisse dépasser la lumière ou trouver une façon d'aller plus vite que la lumière, si éventuellement ça se fait. Mais si aujourd'hui tu poses la question aux astrophysiciens, tu vas avoir 99,999% des astrophysiciens qui vont te dire « on peut pas aller plus vite que la lumière ». Mais tu as des chances, à force de gratter, tu vas sûrement en trouver un qui va dire « on peut y aller plus vite que la lumière ». Parce que dans n'importe quel domaine, il y a toujours des dissidents. Et ça, c'est un danger qu'on appelle le faux consensus. Et je l'ai encore vécu il y a quelques jours. La semaine dernière, j'étais à l'émission de Danny Hull, après-midi. Et on a parlé des chemtrails. Évidemment, je m'attendais à ça. J'ai eu un paquet d'insultes. Et éventuellement, des gens m'ont envoyé des vidéos. Va voir sur YouTube la vidéo de Tartampion qui dit que c'est vrai, les chemtrails. Va voir la vidéo de Joe Blow. Est-ce que ces gens-là se posent la question de savoir que pour chaque Joe Blow qui dit que les chemtrails existent, il y a 100 000 Joe Blow qui disent que ça n'existe pas?
Ouais.
Tu sais, comprends-tu? C'est à un moment donné, là, c'est ça qu'on appelle le faux consensus. Essayez de nous faire croire que l'opinion d'une personne est représentative de la communauté, ce qui n'est pas vrai. Dans le cas de ce fameux Robert Schock, c'est vrai que c'est un géologue. Puis c'est vrai qu'il dit que ça a probablement été érodé par de l'eau, et donc il faut reculer à 10 000 ans pour trouver assez d'eau en Égypte pour éroder le sphinx. Mais là, on a un problème. Si le sphinx a été construit dans la 4e dynastie, donc aux alentours de 2500 ans avant Jésus-Christ, il peut pas avoir été construit il y a 10 000 ans. Alors là, la théorie, c'est que le sphinx était déjà là et que les Égyptiens, quand ils ont construit les pyramides, se sont dit « Oh, il y a un sphinx qui est là. On peut aussi bien le récupérer, tu sais. »
Ben, voyons.
Ben, je te le dis. On dit ça. Ben, voyons. Mais alors que le consensus... hein. Je dis pas qu'il dit pas ça, et c'est vrai qu'il dit ça, mais le consensus pour un Robert Schock qui dit ça, t'as 100 000 géologues et archéologues qui disent, ben voyons donc. Puis d'ailleurs, tu vas le voir toi-même, t'as même pas besoin d'être géologue. Quand t'es là, sur le plateau de Gizeh, là, quand tu vas le voir, le sphinx, regarde autour de toi, là, tu vas vite t'apercevoir que le sol est composé de plusieurs couches de roches. Hein, c'est pas une seule couche. T'as une couche, par exemple, de calcaire, une couche, par exemple, d'une strate plus légère, une autre couche de calcaire. Ces couches-là sont un peu comme un gâteau millefeuille.
Oui.
Et chacun de ces millefeuilles-là, la couche de roche a pas la même solidité. Donc, quand le vent souffle sur le plateau de Gizeh, et il souffle depuis 4500 ans, il y a des strates de pierre qui sont plus friables que d'autres. Ce qui donne cette impression qu'il a été taillé par de l'eau, comme on le voit dans le ruissellement, mais c'est le vent qui a fait ça. Et tous les archéologues, et ça, tu le vois partout, là. Dès que tu te promènes sur le plateau de Gizeh, tu le vois autour des temples, tu le vois dans la fosse où se trouve le sphinx, tu le vois partout. Ces différentes couches sédimentaires qui n'ont pas la même solidité et qui, bien sûr, vont s'effriter différemment au fil du temps avec le vent. C'est pas besoin d'être un génie pour comprendre ça. Robert Schoch, il a beau imaginer l'eau puis tout ça, puis dire ça doit remonter à 100 000 ans, ou ça, c'est son problème à lui. Le consensus scientifique, c'est pas ça. Le consensus scientifique, c'est que on est en présence ici d'une structure de roche de plusieurs étages, qui est composée de différents types de roches, qui s'effritent différemment en fonction du vent, ce qui donne cet aspect-là un peu étrange de vagues, je dirais, sur la structure de la pierre. Mais ça, c'est partout comme ça sur le plateau de Gizeh. C'est pas que le sphinx. Donc, si on pousse plus loin la réflexion de Robert Schoch, c'est pas que le sphinx qui devait être sur le plateau de Gizeh quand les Égyptiens sont arrivés. Il devait y avoir aussi des pyramides, un temple funéraire, puis peut-être même les toilettes chimiques bleues qui se trouvent à l'ouest des bâtiments. T'sais, d'une absurdité, ben tu dis, c'est renversant. Et elle, évidemment, Madame Couvreur reprend ça. Elle fait sienne ses théories tout à fait fantaisistes, désaxées. Écoute, c'est d'une pauvreté intellectuelle renversante. Et là, tu dis, je n'ai pas de mots pour décrire ça. Je sais pas comment on peut ramener la barre, j'imagine. Puis, ce qui est un peu triste, je sais, pour avoir été fait quelques recherches, j'ai vu qu'il y a plusieurs archéologues et historiens qui sont un peu choqués de ce genre de quelle façon on travestit cette histoire-là. Mmh. Mais malheureusement, tu sais, comment je pourrais dire, ces gens-là sortent pas de leur tour d'ivoire. T'sais, ils font un peu un commentaire, bon, c'est de la merde, puis ben, on passe à autre chose. Ces gens-là, ce sont des gens de la communauté, ils s'adressent à leur communauté, puis entre archéologues ou entre égyptologues, on sait c'est quoi la vraie histoire. Puis si des gens veulent croire aux Atlantes ou aux extraterrestres, libre à eux. Mais ce qui est un peu étonnant, c'est qu'il y a très peu de gens qui, comme moi, disent, ben là, attends une minute, là, il faut mettre un frein à ça, c'est beau, là, moi aussi, je veux rêver, mais tu sais, je veux pas rêver à ce point-là, dans la mesure où on va me compter des mensonges et on va me bourrer, là, tu sais, c'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça s'est passé.
Ça me fait craindre pour l'avenir avec, on va dire, le nivellement par le bas des systèmes scolaires, puis on coupe dans l'histoire, on fait des sélections, veut pas, on se concentre un peu plus sur la nôtre que l'inverse. T'sais, est-ce qu'à un moment donné, on va venir par avoir ce consensus-là théorique? T'sais, ça va-tu venir contaminer, entre guillemets, l'histoire?
Et là, évidemment, elle reprend l'histoire de cette fameuse chambre avec le savoir universel qui serait sous le sphinx. Il faut savoir que tout ça, c'est de la foutaise. En dessous du sphinx, il n'y a pas de chambre secrète. Il y a des travaux qui ont été menés là. Les archéologues sont... Il y a sous le sphinx, on a trouvé des chambres de décharge, encore une fois, pour soulager le poids des pierres qui étaient là. Puis, à des moments donné, on a pris de la pierre pour restaurer le sphinx. Donc, on a coupé de la pierre en dessous pour la remonter sur le dessus. Parce qu'il faut savoir que le sphinx, depuis les 4500 ans qui a été construit, là, il a été rénové. Puis, quand je dis rénové, il a été même rénové à l'époque. Parce que l'Égypte, hein, c'est trois grandes périodes, hein, l'Ancien Empire, le Moyen Empire, le Nouvel Empire. Donc, même à ces périodes-là, le sphinx se désagrégeait. Il a été souvent ensablé. Hein, il y a des moments dans son histoire, et en particulier, je pense que les Égyptiens avaient déplacé la capitale à Thèbes, et pendant 10 siècles, on a abandonné le plateau de Gizeh. Ben, tu comprends que pendant 10 siècles, c'est 1000 ans, ça, là, il y a eu du sable, et le sphinx, c'est même que le bout du nez qui ressortait à peu près, là. Il avait fallu le désensabler, etc. Donc, il a été souvent endommagé, puis on l'a réparé, puis on a fait des chambres de décharge en dessous pour le réparer. Et c'est vrai que T'sais, quand elle disait, par exemple, que quand Madame Couvreur dit « Ah, il n'y a pas de nom de Pharaon », encore là, c'est faux, parce qu'on sait que du Sphinx, que tu pourras visiter d'ailleurs, oui. Du Sphinx vers les pyramides, il y a des corridors. Et ces corridors-là, dans l'un de ces corridors-là, au bout d'un de ces corridors-là, il y a ce qu'on a appelé la barque funéraire de Khufu, hein, un bateau qu'on avait enterré au pied de la pyramide, qu'on a découvert tout récemment, et qu'on avait mis là parce qu'on se disait que le Pharaon aurait besoin d'un bateau pour traverser la mer de l'au-delà pour rejoindre les dieux.
Ouais.
Et déjà dans cette chambre-là où se trouve la barque, on retrouve là aussi un cartouche au nom du pharaon Khéops, et on trouve aussi un cartouche au nom du pharaon Djédefré, donc le fils avec la pyramide sans montagne. Là. Donc on retrouve... Donc tout ça, c'est faux. Là. Ce qu'elle nous raconte, là, c'est des bobards. Là. Je vous le dis, là, vous voulez vous divertir, mettez-vous un épisode des Simpsons ou quelque chose, mais pas ça! C'est du grand n'importe quoi, puis elle parle avec une voix suave, nous donnant une impression qu'elle va nous faire des révélations. Mais ces révélations, c'est des révélations d'imbéciles, de n'importe quoi. C'est très difficile. T'écoutes ça, puis c'est difficile de pas réagir en étant choqué de ça. Tu dis, mais voyons là, c'est du grand n'importe quoi.
Pour les connaisseurs et ceux qui ont moindrement lu des livres, là, effectivement, ça peut être choquant. Ou les gens qui veulent faire comme toi, Christian, c'est-à-dire apprécier, c'est apprécier, détester, en fait, apprécier, déboulonner ce que la personne dit.
Tu sais, il y a des énigmes. En Égypte, il y en a plein d'énigmes. Si on s'adresse à des archéologues ou des historiens, ils nous diront, il y a tel truc qu'on ne sait pas, puis on ne sait pas comment ça s'est fait. Puis on a une grande période où les documents, parce qu'il y a eu des éléments qui ont été qui ont disparu, qui ont été détruits. Je pense par exemple à un moment donné, il y a eu un pharaon qu'on considère un peu comme un pharaon rebelle. Hein. Il avait abandonné toutes les. Il s'appelait Akhenaton. Lui a abandonné anciens dieux d'Égypte. Hein, c'est d'ailleurs Akhenaton, c'est le père de Toutankhamon. Et Akhenaton, lui, a comme abandonné tous les anciens dieux d'Égypte et a fait construire une cité qu'on a appelée la cité d'Amarna. Hein, c'était sa cité. Et dans lequel on abandonnait tous les dieux de l'Égypte pour rendre gloire à un seul dieu qui était le dieu solaire.
Okay.
Et à la mort évidemment on l'appelait il était détesté là Akhenaton. Tu sais, on peut pas arriver puis balayer tout l'histoire de l'Égypte d'un coup de balai comme ça en disant ben voilà on repart sur autre chose. Il a été détesté à la mort d'Akhenaton. Ben évidemment cette cité d'Amarna a été entièrement déconstruite par les gens. Le peuple égyptien ont enlever les pierres qui avaient servi à la construction de la cité d'Amarna.
Ah oui, ils l'ont renié.
Qu'on a utilisé pour construire d'autres monuments. Donc aujourd'hui, cette grande cité d'Amarna, la cité sur laquelle a régné Akhenaton, ben aujourd'hui n'est plus qu'un ensemble d'un paquet de roches à terre, il n'y a plus rien. T'sais, ça a disparu. Donc c'est difficile de reconstruire toute l'histoire d'Amarna si ce n'est que à partir de ce qui nous reste. Puis ce qui nous reste, c'est pas grand-chose parce que la cité a été détruite. T'sais. Heureusement qu'on a des papiers, des hiéroglyphes qui nous expliquent pourquoi Akhenaton était tellement détesté, ce qu'il avait amené, ses politiques. D'ailleurs, la première chose qu'a fait son fils Toutankhamon, c'est de ramener l'ancien culte des dieux de l'Antiquité, là, d'autrefois. Et ce qui lui a valu, bien sûr... le support du peuple, parce qu'Akhenaton était vraiment le renégat. Pour les gens là, c'était un crime de lèse-majesté que de faire un truc comme ça, tu sais.
Et qu'on décide de le déshonorer en détruisant sa cité.
Akhenaton est passé dans l'histoire sous le nom du pharaon hérétique. Hein, ça va loin là, le pharaon hérétique, parce qu'il a tout abandonné pour s'adonner à ses propres lubies. Donc il faut rappelez-vous que quel que soit votre sujet d'intérêt, il y a des experts, puis il faut s'adresser aux experts. Si l'histoire est votre sujet d'intérêt, ben il y a des historiens puis il y a des archéologues qui dédient leur vie à ce travail-là. Puis je pense que c'est les premières sources qu'on doit consulter. Puis laisser passer les gens qui du jour au lendemain se décident comme ça d'être des archéologues d'estrade.
Là, ouais, ou de sous-sol.
Mais on en connaît tous là, des gérants d'estrade. Tu sais, ben ils écoutaient parler, eux feraient toujours mieux que les joueurs à la glace ou que les entraîneurs. Tu sais, mais bon. Et c'est un peu ça le discours de cette cette dame-là, c'est les archéologues sont dans l'erreur, les archéologues sont, c'est faux, ils savent pas de quoi ils parlent, mais moi, je le sais, puis je vais vous faire ces révélations-là en allant puiser à gauche et à droite dans des lectures tout à fait olé-olé pour essayer de vous raconter une histoire qui n'est pas la vraie histoire.
Loin de moi l'idée de dire que les gens ne peuvent pas se tromper, mais je fais encore confiance, Christian, à ceux qui ont des diplômes et de l'étude en poche.
Oui, c'est comme à un moment donné, puis l'histoire nous montre aussi, tu sais, faut oublier l'idée, quand on discute avec des gens à propos de ça, c'est ce que moi j'appelle le syndrome Galilée, hein. On est souvent, des gens disent, oui, mais tu sais, Galilée, il avait raison, puis alors que tout le monde disait qu'il avait tort.
Ouais, mais c'est un parmi beaucoup.
C'est un parmi beaucoup, puis il faut se rappeler que Galilée, à son époque, les arguments qui étaient opposés à Galilée, c'était des arguments religieux.
Oui.
C'était pas science contre science. C'était science contre religion. Alors qu'aujourd'hui, là, on a dépassé ça. Dans le discours scientifique, si on regarde des archéologues, ils opposent entre eux des éléments d'ordre scientifique. Et c'est science contre science. Et non pas science contre religion. Et quand on regarde l'histoire du dernier siècle, l'évolution des sciences, ça s'est fait généralement en fonction de la majorité, hein. On n'a pas vu beaucoup de gens qui disaient l'inverse de la majorité qui ont eu raison, hein. C'est toujours, la majorité disait blanc, ben, les faits ont démontré que c'était blanc. Et éventuellement, c'est comme ça que ça a évolué. Les marginaux, contrairement, dans le temps de Galilée, c'était Galilée, mais aujourd'hui, je peux te dire qu'en termes de science, les marginaux ont généralement tort. Il faut se rappeler de ça.